Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Dans nos lectures en liberté, nous reprenons donc la suite de ce roman de Yannick Haenel, Tiens ferme ta couronne. J'ai vite compris que Simino avait disparu de la circulation. On le disait ruiné, malade, on disait aussi que plus personne ne voulait produire ses films et qu'il s'était tourné vers la littérature. Il vivait dans une ferme du Montana ou une cabane, on ne savait pas très bien. On disait aussi qu'il ne sortait jamais de sa piscine et que personne depuis plus de 30 ans n'avait vu ses yeux qui, imperturbablement, se masquait derrière des lunettes noires, comme si cet écran sur son visage donnait à voir avec une constance qui relevait de la bouderie la plus radicale, une bouderie mythologique comme celle d'Achille, donnait à voir le fait qu'il n'avait précisément plus rien à voir, qu'il n'y avait plus de film, que l'écran désormais était noir, et qu'un tel constat valait autant pour le cinéma que pour la vie. Mais ces lunettes dont chaque article de presse sur Simino évoquait l'étrangeté, sans doute parce qu'il avait une manière particulière de les porter, une manière de s'exprimer depuis ces lunettes noires, et depuis cette cessation du visible qui hantait son cinéma, ces lunettes signalait peut-être avant tout l'importance de l'idée de frontière dans sa vie. Elle récapitulait spectaculairement, comme un rideau de théâtre qu'on tire en guise de représailles, la série de frontières dont il avait fait l'épreuve à chaque instant de sa vie tout en cherchant à les brouiller. Frontières entre lui et les autres, bien sûr. Mais surtout frontière entre la délicatesse de ses rêves et les millions de dollars dont on lui reprochait la perte. Frontière entre la poésie et l'argent. Frontière entre les sexes. Car dans ses films, les hommes étaient féminins et les femmes masculines. Frontière entre l'Amérique de ses échecs et l'Europe de ses pensées. Bref. Simino, disait-on, consacrait son temps à la solitude, à ce désert qui avait poussé en lui et qu'aucune vision ne récusait parce que le désert est l'aboutissement même de la vision. Était-il devenu complètement fou ou au contraire avait-il atteint la sagesse? En un sens, folie et sagesse sont une même chose. Et la raison ne cherche qu'à exténuer ce qui en elle relève de la limite. En tous les cas, comme le héros de l'Amérique de Kafka, livre qui devait s'appeler initialement Le Disparu, il s'était bel et bien évanoui dans les lointains, au cœur dissimulé de cette terre américaine dont il avait rappelé après Melville l'immense flaque de sang qui en fondait l'histoire. Sa disparition me paraissait logique. N'avait-il pas été forcé de fuir dans les bois comme le daim blanc? J'ai revu ses films un par un en prenant des notes et plus je les voyais, plus il me semblait évident que non seulement Simino comprendrait ce Gret Melville, mais qu'en un sens, dans chacun de ses films, il réalisait déjà mon scénario. Pointel. J'ai dit qu'à l'époque j'étais fou. Disons que j'étais possédé. Les noms, les livres, les phrases, les films n'arrêtaient pas de vivre à l'intérieur de ma tête. Ils se donnaient des rendez-vous pour former entre eux des extases, sans même que je puisse les séparer. J'étais littéralement habité par ce flux de noms, de phrases, de titres de livres et de films dont la circulation s'était progressivement substituée à mon souffle et à mes nerfs. Ça ne se calmait jamais. Qui a dit que les noms depuis le Christ sont pareils au souffle du matin et qu'ils sont des rêves ? Dans ma vie, le souffle du matin est démesuré. Mes rêves sont immenses. Ce sont des incendies qui se propagent à travers les nuits, les saisons, les voyages. Ils réveillent les noms, les autres noms, tous les noms qui se parlent entre eux. Alors voilà, ma maladie, comme disaient mes amis, ma folie, c'était ça. Un mouvement perpétuel de noms. Chacun d'eux venait avec le vent, ils formaient un troupeau comme des chevaux sauvages qui tournoient dans une vallée. Chaque nom en allumait un autre, ça ne finissait jamais. Je passais mes journées à me réciter des listes, des bouts de phrases, des citations, et tout se mettait en rapport et s'ouvrait démesurément comme une terre sans limite avec des flammes de bonheur qui s'arrachent au monde éteint. On peut considérer, bien sûr, que j'étais malade. Mais cette vie des noms dont j'étais chargé me rendait étrangement plus léger, comme si, à chaque instant, le daim blanc de Melville m'apparaissait. Voilà, je vivais au milieu d'un cortège de daim blanc, et en un sens, c'était cela ma folie, mais c'était aussi ma gloire. Parce que dans ce cortège qui défilait dans ma tête, j'étais accueilli. Évoluer parmi les noms me donnait des ailes. Un matin de mars, après des semaines de recherche, de rendez-vous bizarres, de coups de fil accablants, quelqu'un m'a transmis le contact de Michael Cimino. C'était dans un bureau de production, rue Notre-Dame de Nazareth, juste à côté de la place de la République. Le type à qui j'ai parlé ce jour-là de mon scénario, un certain Pointel, trouvait que j'étais complètement fou. Il pensait que personne ne voudrait mettre de l'argent sur un projet pareil. Pointel avait cessé de produire depuis longtemps des films ambitieux, comme il disait. Selon lui, l'époque du grand cinéma était finie. Il n'y avait plus que de la télévision et il se contentait de produire des séries pour les chaînes françaises, des sagas. « Des trucs pour les grands-mères », comme il disait. Mais cet homme d'une soixantaine d'années dont le visage était buriné comme celui d'un loup de mer et dont le sourire était celui d'un dément aimait la littérature américaine. Il avait passé sa jeunesse à San Francisco, continuait à vivre la moitié de l'année en Californie et s'est mis à me parler des plages et plus particulièrement de Big Sur, où il possédait une petite maison, quasiment une cabane, me dit-il. Il l'avait bâtie lui-même et en était fier. Pointel a cité plusieurs fois une phrase de Kerouac. « L'innocence absolue, celle de l'Indien qui a construit une pirogue tout seul dans les bois. » Il s'est mis à monologuer sur la littérature américaine dont il était passionné. Il adorait Melville, Faulkner, Wiseman, et pour lui, ce qui s'était écrit de plus beau sur la guerre et l'amour, je le cite, sur l'espoir et la déception, sur la politique et l'horreur, c'était là-bas que ça s'était écrit. Et les films américains, selon lui, les meilleurs au monde, n'étaient jamais que les héritiers de la littérature américaine qui était la meilleure au monde. Bref, lorsque le nom de Cimino a été prononcé et que j'ai dit en riant que lui seul pourrait réaliser un film tel que The Great Melville, parce que sa vie n'était pas sans rapport avec Melville, Pointel m'a regardé longuement sans rien dire, comme pour évaluer si j'étais sérieux. Comme si, d'un coup, l'éventualité que mon scénario puisse valoir quelque chose l'avait effleuré. « Michael, oh, c'est un ami. » « Tenez, je vous note son numéro, appelez-le de ma part, vous verrez bien. » Il m'a tendu un post-it jaune, s'est levé, m'a raccompagné jusqu'à la porte et en me serrant la main, m'a dit « Si vous arrivez à réveiller Michael, jackpot, tenez-moi au courant. » Et il a souri en me tapotant l'épaule. Réveiller Cimino, qu'est-ce que ça pouvait bien dire ? À coup sûr, me disais-je en descendant les escaliers, ce numéro de téléphone était un faux. Pointel m'avait raconté n'importe quoi, il était aussi cinglé que mon scénario et en plus il s'était payé ma tête. En ce moment même, à coup sûr, il était au téléphone avec un copain producteur, un type avec qui il faisait de la voile ou ce genre de choses. Et il lui racontait comment il avait reçu dans son bureau un idiot d'écrivain français qui voulait faire un film avec Michael Cimino. Et tous les deux, à coup sûr, éclataient de rire, comme les rapaces lucides et tristes qu'ils étaient devenus et que presque tout le monde, ces derniers temps, était devenu en France et sans doute partout dans le monde. Il était temps que j'arrête ce délire, que je fasse une croix sur ces histoires de daims blancs et de têtes mystiquement alvéolées. Au fond, ça ne m'amusait plus. J'étais tout simplement devenu obsessionnel. Ces dernières années, je n'avais pas fait attention à ce qui m'arrivait, encore moins à ce qui arrivait aux autres. J'avais glissé dans une solitude aberrante, une solitude que je croyais glorieuse, mais qui n'était qu'un isolement sordide. Ma vie, que je croyais une aventure, tournait autour de mon ordinateur, devant lequel j'étais posté 10 heures par jour, autour de mon frigo, qui était inlassablement vide, et de quelques bars de Gambetta ou de Belleville, où j'allais m'enivrer en racontant n'importe quoi à n'importe qui. Tout ça parce que j'avais une idée fixe. Tout ça parce que je lisais Melville, le grand Melville, et que j'avais découvert dans ses livres, dans sa vie et ses pensées, quelque chose qui me semblait capital, une chose pour laquelle j'avais abandonné insensiblement mes amis, ma joie, les romans que j'écrivais, c'est-à-dire la vie même. En marchant ce jour-là, au hasard des rues, je suis tombé devant Beaubourg sur Agathe, une jeune femme dont j'avais été amoureux il y a quelques années et qui était devenue cinéaste. Elle était resplendissante. Les fleurs blanches et mauves qui s'épanouissaient comme des grappes de raisin dans les feuillages autour de nous semblaient tourner vers sa fraîcheur. On aurait dit que ces fleurs n'avaient éclos qu'afin d'illuminer d'un peu de mauve son beau visage pâle et d'ajouter à sa robe à carreaux vichy rouge et blanc de petits reflets qui, en miroitant, vous invitaient à partager avec elle une légèreté soyeuse, enfantine, comme s'il neigeait en plein mois de mars et que ses flocons vous caressaient la joue, comme si cette neige de fleurs était la promesse d'un doux baiser et que vous n'étiez peut-être pas seul au monde puisque cette jeune femme vous souriait et qu'elle paraissait avoir tout son temps pour vous. Mais son téléphone a sonné, elle a répondu aussitôt en s'éloignant, elle m'a adressé un baiser avec la main. Téléphonage. Je n'ai rien fait pendant plusieurs semaines, ordinateur, frigo, vodka. J'entendais partout des voix de rapaces lucides et tristes, des gens qui riaient grassement dans la rue en se donnant des numéros de téléphone. Je me disais, une cabane à Bixure, voilà ce qu'il me faut, ou même une cabane dans le Finistère, une cabane dans le Pas-de-Calais, n'importe où, pourvu qu'il y ait la mer et que j'oublie les voix féroces, que j'oublie tous ces noms qui crépitaient pour rien dans ma tête, ce cortège glorieux qui m'avait entraîné dans une impasse. Oui, même un trou pourri au bord d'une mer dégueulasse, pourvu que je n'entende plus rien, ni les rapaces, ni les daims. Et que je m'éveille enfin, comme l'avait dit Pointel à propos de Cimino. Alors à voix haute, je disais cette phrase « Si j'arrive à me réveiller, jackpot !» Et je riais tout seul. Thank you.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Retour au roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Un matin vers 11h, en composant le numéro de téléphone de Michael Cimino, celui que Pointel avait écrit sur le post-it que j'avais gardé tout ce temps dans la poche de ma veste et que j'avais traîné avec moi jusqu'au port du Croisic, chez les Ricoeur, un couple d'amis qui m'avait invité à revenir me reposer chez eux, je m'apprêtais à tomber sur un faux numéro, ou peut-être sur Pointel, qui alors éclaterait de rire et me signifierait par ce rire effrayant que le cinéma était bel et bien une histoire morte. Mais je m'en foutais. J'étais calme. Il fallait que je passe une fois pour toutes ce coup de fil. Je composais ce numéro de téléphone pour en finir, pour me débarrasser de The Great Melville, pour me réveiller. Personne ne répondrait, ou bien j'entendrais un rire, ou alors enfin je passerais à autre chose, comme mes amis du Croisic m'y avaient enjoint avec tact et gentillesse, m'encourageant à reprendre ma vie de romancier heureux, à jouir de mon talent plutôt qu'à le gâcher, et à cesser de voir dans le cinéma un accomplissement possible de la littérature, car la littérature n'avait besoin d'aucun autre accomplissement qu'elle-même. Il me l'avait répété pendant les 15 jours où j'étais resté chez eux, au bord de la mer, lors de promenades quotidiennes sur la plage, et ils avaient raison. Quelqu'un a décroché. Et à ce moment précis, je me suis rendu compte que j'avais oublié le décalage horaire. Il était 11h du matin en France. Mais si ce numéro était américain, et vu les chiffres, il semblait bel et bien américain. Quelle heure pouvait-il être en Amérique ? Avant même de me présenter, je me suis excusé et j'ai demandé l'heure. « What time is it ?» Le type a répondu « 3 o'clock in the morning ». J'ai dit que j'étais absolument désolé. J'appelais de France et j'avais oublié le décalage horaire. Le type a dit que ça n'avait aucune importance parce qu'il ne dormait jamais. J'ai demandé s'il était possible que je parle à Michael Cimino, et il m'a dit que c'était lui. Il a ajouté, en riant, « Je suis Michael Cimino ». Alors Cimino m'a écouté baragouiner quelques secondes en anglais à propos de Melville, Herman Melville, et de l'échec comme vérité de l'être. J'ai dit qu'échouer, c'était avoir raison historiquement. Et Cimino m'a répondu très cordialement en français, dans un français aussi approximatif que mon anglais, que sans aucun doute Melville était un magnifique écrivain et qu'il l'avait beaucoup lu, comme Dostoïevski, m'a-t-il dit. Et il m'a précisé que la fin de La Porte du Paradis sur le bateau, lorsque Chris Christopherson se tient dans sa cabine plein d'illusions perdues, il avait prononcé ces deux mots en français avec une sorte de raffinement canaille, comme s'il était devenu un personnage de Proust. Cette fin était un hommage à l'auteur de Moby Dick, mais qu'il travaillait depuis des années sur un autre scénario, l'adaptation de La condition humaine de Malraux. Quoi qu'il en soit, c'est l'expression qu'il a utilisée, il serait content de me rencontrer afin de parler de littérature, de Melville, de Malraux, de Dostoïevski, a-t-il dit. Content de rencontrer un Français, parce que la France était le seul pays où l'on comprenait vraiment ses films, avec la Pologne peut-être. Mais la Pologne était un pays imaginaire, a-t-il ajouté d'une manière énigmatique. Bref, il était actuellement à Los Angeles, mais serait à New York quelques jours, mi-avril, pour acheter des livres, m'a-t-il dit. Et si j'en avais envie, on pouvait se voir là-bas. J'ai répondu oui, bien sûr. New York, quel jour? Et Cimino m'a dit, voulez-vous le 17 avril dans l'après-midi? Parfait, j'ai dit, absolument parfait, le 17, j'y serai. Nous avons convenu de l'heure exacte du rendez-vous et du lieu, puis il m'a remercié de l'avoir appelé. J'étais abasourdi. Dans ma tête, le daim blanc se remettait à galoper, la forêt des noms bruissait d'une confiance nouvelle. Quelque chose de mystiquement alvéolé agrandissait de nouveau ma joie. Je riais tout seul. Et j'ai avalé une grande rasade de vodka en l'honneur de Cimino. Voilà. J'étais réveillé. J'allais rencontrer Cimino. J'allais lui parler de The Great Melville. En finir avec cette histoire ne consistait pas à s'en débarrasser, mais à l'accomplir dans la réalité. J'ai appelé mes amis du Croisic pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ils étaient très contents pour moi, et en même temps un peu inquiets parce que cette histoire n'était toujours pas finie, et selon eux, elle risquait de ne jamais finir. Mais ils se rendaient compte que j'allais rencontrer Michael Cimino. Eux aussi avaient vu ces films, et que c'était une véritable aventure. En avalant un autre shoot de vodka, j'ai pensé à Pointel. Il ne s'était pas payé ma tête. En un sens, il m'avait donné ma chance. « Si vous arrivez à réveiller Michael, jackpot !» Je répétais cette phrase en riant. À partir de maintenant, me disais-je, je n'allais plus faire que ça. Réveiller Michael Cimino, réveiller le grand Melville et me réveiller enfin moi. Fini la vodka, fini le frigo vide, fini les nuits blanches devant l'ordinateur. Discipline, discipline absolue, réveil, jackpot. Quelques minutes après ce coup de fil à Michael Cimino, le téléphone avait sonné. Et c'était lui. Il avait rappuyé sur la touche « rappel » de mon téléphone. Et puisqu'on se voyait bientôt à New York, pouvais-je lui apporter de Paris un livre sur Malraux qu'il n'avait pas trouvé ici, ni à Los Angeles, ni à New York. Un livre du philosophe Jean-François Lyotard. Un livre qui, sans doute, n'était pas traduit en anglais. Un livre dont il avait absolument besoin pour son scénario. Et dont il pensait qu'il contenait des informations absolument décisives, des informations qui, peut-être même, allaient tout changer à son scénario, tout changer à l'idée qu'il s'était faite jusqu'à présent de Malraux, et par la même occasion de son roman « La condition humaine ». Roman dont il était évident, me dit-il, qu'il s'agissait d'une manière absolument secrète d'un traité philosophique et même mystique sur le sens de la révolution et du suicide. Et aussi, bien sûr, ajouta-t-il, sur leur absence de sens. Car au fond, me dit-il, la condition humaine est avant tout un livre sur l'étrange rapport, étrange et décisif, me dit-il, entre la révolution et le suicide. On peut dire, me dit Michael Cimino, que la condition humaine est à la fois un livre sur le caractère suicidaire de la révolution et un livre sur le caractère révolutionnaire du suicide. Car en un sens, me dit Michael Cimino, la révolution pour Malraux est une forme de suicide. Un suicide nécessaire, bien sûr, un grand et beau suicide, dit-il en appuyant sur ces deux adjectifs. Et même en même temps, le suicide de certains de ces personnages, et en particulier celui de Caillou, est finalement un acte politique, le plus beau, le plus grand des actes politiques, c'est-à-dire un acte, bien sûr, absolument révolutionnaire. Bref, est-ce que ça ne me gênait pas si je le trouvais à Paris ? Et sans doute serait-il facile de le trouver à Paris, de lui rapporter à New York ce livre sur Malraux. Aucun problème, ai-je dit, ça me fait plaisir. Le 17 avril, sans faute, j'apporterai ce livre. J'étais fou de joie à l'idée que Cimino me demande quelque chose, car cela confirmait notre rendez-vous, lui donnait une consistance et même quelque chose de réel. Car après tout, qu'est-ce qui m'assurait que le 17 avril à 15h, Michael Cimino se déplacerait pour rencontrer un inconnu français qui avait écrit un scénario sur Melville ? Qu'est-ce qui m'assurerait qu'il ferait l'effort d'être là, lui, qui avait tellement habitué le monde à ne plus du tout être là ? Maintenant qu'il y avait ce livre, j'étais presque sûr qu'il viendrait au rendez-vous. J'étais sûr qu'il ne l'oublierait pas et qu'au dernier moment, il ne chercherait pas à le reporter ou à l'annuler ou à l'effacer tout simplement de son esprit. Je me suis mis à la recherche du livre de Jean-François Lyotard sur Malraux, que j'ai trouvé immédiatement chez Gibert, puis d'un billet d'avion pour New York. Il ne restait aucune place autour du 17. Je n'avais pas réalisé que le 17, c'était dans 3 jours. Mais il en restait pour le 17 lui-même. Il y avait même une offre à moitié prix pour un aller-retour dans la même journée. Une journée à New York. Une seule journée. Sortir de l'aéroport, voir Cimino, repartir à l'aéroport. Faire le voyage à New York uniquement pour voir Michael Cimino. Au fond, ça me plaisait. Qu'avais-je à faire des charmes de cette ville ? Je ne m'intéressais pas tellement aux villes. Je décidai donc de saisir cette offre, d'arriver à New York le 17 au matin et de repartir le 17 au soir. Le cavalier polonais. À 15h, le 17 avril, comme prévu, j'étais posté face au cavalier polonais de Rembrandt. J'avais du mal à me concentrer sur le tableau parce que je guettais l'arrivée de Cimino. Je me répétais les mots qu'il avait prononcés au téléphone pour fixer notre rendez-vous. « Voulez-vous qu'on se retrouve à la Frick Collection ?» C'est un musée juste en face de Central Park. Et tout heureux de la coïncidence parce que c'est dans ce musée qu'est exposé le cavalier polonais de Rembrandt et que j'associe ce tableau, comme vous savez, au Dain effarouché de la vérité selon Melville. J'avais exprimé à Cimino non seulement mon accord mais mon enthousiasme et précisé qu'on pouvait alors se retrouver devant ce tableau que j'aimais particulièrement. Il avait dit « Wonderful ». Et maintenant que j'étais devant le cavalier polonais de Rembrandt, je me demandais s'il avait bien entendu, s'il était clair pour lui que c'était devant ce tableau, précisément devant celui-ci, que nous avions rendez-vous. Peut-être avait-il compris autre chose. Peut-être pensait-il que nous nous retrouverions au hasard dans le musée et que je n'avais indiqué le cavalier polonais de Rembrandt qu'afin de lui faire entendre que je connaissais ce musée. Le musée où il y avait le cavalier polonais de Rembrandt. Comment faire ? J'attendais depuis une demi-heure, et si maintenant je m'éloignais de ce tableau pour chercher Michael Cimino dans les autres salles du musée, il pouvait pendant ce temps apparaître dans la salle du cavalier polonais, et ne me voyant pas, il risquait de partir. Le mieux était de ne pas bouger. Même s'il n'avait pas compris qu'on devait se retrouver devant le cavalier polonais de Rembrandt, même s'il pensait qu'on se croiserait au hasard dans le musée à un moment ou à un autre, il entrerait forcément dans la salle du cavalier polonais de Rembrandt, et on se rencontrerait. Car j'étais debout face au tableau, bien en vue, ne cessant de jeter des coups d'œil autour de moi, et chaque fois que je me retournais vers l'entrée de la salle, guettant l'arrivée de Cimino, la gardienne croisait mon regard. Chaque fois, elle me fixait, et au fil du temps, son regard s'était durci. Il avait pris un air, non pas de désapprobation, ce serait excessif, mais de légère interrogation méfiante. Qu'est-ce que je foutais là, debout ? Depuis plus de 40 minutes, face à un tableau, alors même que je ne le contemplais pas, ce tableau. J'étais trop préoccupé par l'arrivée imminente de Cimino, mais que je regardais sans cesse autour de moi. Voilà ce qu'exprimait le regard de la gardienne. Et je ne pouvais pas lui donner tort. Voilà, nous avons terminé pour ce soir, donc... Cette deuxième partie du roman de Yannick Haenel, Tiens ferme ta couronne, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.